Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue à Yoga Partout International. Aujourd'hui, Carole Dion Vichy de l'école Aquavie Mouvance. Carole Dion Vichy a créé la méthode Mouvance en eau. Ce n'est pas d'hier. On connaît toutes ces méthodes d'exploration au niveau du prana en yoga, au niveau de l'éther, de l'akasha. Au niveau de Swadhisthana, de l'eau. Eh bien, c'est en 1978 que Carole Dion Vichy a mis en place les piliers de cette technique de mouvance en eau, cette méthode de découverte de qui nous sommes véritablement, qu'est née Mouvance en eau, l'école Aquavie Mouvance. Elle possède une maîtrise en pédagogie, un certificat en expression dramatique et en éducation physique. Dans sa démarche corporelle, Carole Dion Vichy a été surtout influencée par la danse contact, improvisation et les méditations. Elle a ensuite entrepris une formation en thérapie psychocorporelle. Très tôt dans son chemin spirituel, Carole Dion Vichy a débuté à toucher des gens, à les transformer, à leur faire découvrir le mouvement dans l'eau. Elle enseigne la natation traditionnelle à ce moment-là et elle utilisera sa méthode de mouvance en eau dans différents groupes d'âge. C'est l'enseignement de l'éducation physique auprès des enfants qui sera à l'origine de la mouvance en eau à travers un projet éducatif en milieu aquatique. Elle a pu actualiser son attrait pour la périnatalité, j'aurais dû dire périnatalité, et l'accouchement dans l'eau avec ses deux derniers enfants. De nombreux voyages et sa participation à des congrès internationaux ont nourri son parcours de vie et sa recherche dans le domaine. D'ailleurs, elle part, elle revient du Mexique. Je spécifie cela parce que nous sommes en 2017 et pour moi, c'est un grand privilège d'avoir fait votre connaissance. Carole, je vous ai comme ça énuméré votre parcours formel. Dites-moi, Carole, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour Daniel.
Bonjour,
Ben, ça me
bonjour.
fait bonjour. Donc oui, la description du parcours est assez juste et oui, j'ai fait quand même plusieurs voyages et congrès internationaux pour essayer de vraiment essayer de découvrir, essayer de voir qu'est-ce qui se passait dans le monde, dans le domaine aquatique pour voir la partie que moi j'ai mis au point, la partie que j'ai créée, voir si je peux retrouver des ressemblances ailleurs. Donc, c'est ça. Je peux dire que ce que je fais le plus maintenant, c'est le travail avec les bébés dans l'eau. Je fais des formations avec les bébés dans l'eau, mais aussi avec le massage dans l'eau que j'ai développé et aussi le yoga dans l'eau. Et la danse dans l'eau, l'aquadance, qui viennent tous de l'approche de l'aquamouvance qui est basée sur la technique de la vague. Donc, c'est ça, ça m'a, avec le temps, j'ai développé une vingtaine de nages ondulatoires qui ont donné naissance aux autres disciplines.
C'est intéressant. C'est intéressant, surtout que quand on voyage comme ça et qu'on cherche des techniques qui ressemblent ailleurs, on en découvre d'autres aussi. On échange avec ces gens-là. Par exemple, vous revenez du Mexique. Vous avez découvert que vous avez beaucoup d'expérience. Lorsqu'on a parlé avant de démarrer, de faire cette émission, vous m'avez dit que vous avez beaucoup d'expérience comparée aux autres. Est-ce que quand même vous avez retrouvé des ressemblances à l'école Aquavie Mouvance, aux techniques que vous utilisez?
Je suis contente que vous me posiez cette question-là. Effectivement, quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que le travail, c'est un festival en aquadance. Et puis, j'ai vu que, puis en danse contact improvisation. Donc, j'ai vu que le travail qu'ils faisaient là-bas était articulé dans le même genre de travail que je faisais il y a à peu près 30 5 ans, 30, 35 ans.
Wow!
Donc, nous, on va avoir 40 ans au printemps 2018. Ce qui fait que l'exploration s'est faite et puis j'ai découvert les mêmes choses qu'eux découvrent puis mettent au point. Après 4, 5, 6 ans d'expérience. Donc, moi aussi, à l'époque, après un certain nombre d'années du même ordre, là, j'étais rendue à peu près à la même étape. Ce qui fait que, à l'époque, j'ai vraiment pris le temps de faire une synthèse, de mettre au point tout qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme mouvement dans l'exploration de l'aquadance. Et c'est là que j'ai découvert que tout était basé sur l'ondulation.
Et voilà.
Maintenant, mais voilà.
Et c'est quoi au juste, parce que, bon, pour les personnes qui ne connaissent pas votre technique, en fait, vous avez créé la méthode, sauf que j'ai l'impression que vous n'avez rien inventé. Vous avez simplement ravivé ou mis de façon contemporaine des techniques qui existent déjà. Deux questions, Carole. Premièrement, définissez-nous quelle est cette technique d'ondulation. Qu'est-ce qui fait que l'école Aquavie Mouvance est ce qu'elle est par rapport aux autres.
Je vais vous reprendre dans ce que vous avez juste dit auparavant.
Oui.
J'ai vraiment, j'ai pas parti cette technique-là à partir de d'autres personnes.
OK.
C'est que j'ai d'abord cherché moi-même. J'ai d'abord, j'étais éducateur physique et puis c'est avec des enfants je te dirais de 9-10 ans. Parce que, bon, le fait d'être éducateur physique, j'ai parti un projet avec ces enfants-là et puis par la suite avec les professeurs. Mais dans mon projet, je devais trouver tout ce qui correspondait au développement moteur de l'enfant pour ces niveaux d'âge-là, mais par le milieu aquatique. Donc, je me suis pas servie de la natation traditionnelle, mais du mouvement pur pour aller chercher des éléments qui pouvaient correspondre. Par la suite, c'est les professeurs qui m'ont demandé d'avoir un cours approprié pour eux, dans le même genre, mais approprié pour des adultes en soirée avec leurs amis. Donc, c'est comme ça que les cours pour adultes ont commencé. Ça fait que j'ai mis au point des exercices, des jeux qui permettaient aux personnes qui n'étaient pas à l'aise dans l'eau, ainsi que les personnes qui étaient très à l'aise dans l'eau, de trouver leur contentement, de trouver leur apprentissage à travers un même groupe, une même leçon. Donc, pour des personnes qui sont à l'aise dans l'eau, c'était plus un déconditionnement aquatique, parce que on se basait pas sur la natation traditionnelle. Puis c'était là pour tout réveiller le tronc, le corps, là, le torso. Et puis pour les personnes qui étaient pas à l'aise dans l'eau, ben c'était de se familiariser avec des choses comme très simples. En général, les gens qui venaient à moi qui avaient peur qui étaient pas à l'aise dans l'eau, c'était des gens qui avaient une autonomie de base, c'est-à-dire qui mettaient leur tête à l'eau, qui se relevaient debout toutes seules, qui flottaient sur le ventre et sur le dos, et qui pouvaient se retourner. Donc ça, c'était la base. Puis, je pouvais faire un cours avec ces personnes-là, autant avec des personnes qui étaient à l'aise dans l'eau. À travers le temps, j'ai remarqué que les personnes qui avaient fait déjà du cheminement personnel, de la croissance personnelle, du travail de thérapie, du travail sur leurs émotions, étaient beaucoup plus dégagées dans leur tronc, dans leurs membres, dans tout leur corps que les deux autres parties. Ça se comprend pour les gens qui ont peur de l'eau, mais c'est surprenant pour les gens qui sont à l'aise dans l'eau. Donc, les gens qui étaient des compétiteurs, qui faisaient de la compétition, étaient pas nécessairement à l'aise avec apprendre des mobilités nouvelles. Donc, mais tout le monde aimait ça quand même. Fait
C'est
que
bon.
ça, c'est
C'est bon. Donc,
Fait que ça,
vous avez utilisé vos étudiants, vos étudiantes, un peu comme un laboratoire, la piscine, un peu comme un laboratoire. Et d'après vous, le fait d'avoir un chemin spirituel, d'avoir un cheminement, personnel, une recherche sur soi, serait relié avec des blocages que l'être humain a dans son corps et que en utilisant la méthode de Aquavie Mouvance, les personnes qui viennent vous voir peuvent découvrir où se trouvent ces blocages. Comment ça se passe pour qu'il y ait cet éveil et cette prise de conscience chez les étudiants, les étudiantes qui suivent vos formations?
Je vais commencer par le début, c'est-à-dire j'avais un grand objectif de base. Moi, je viens d'une maîtrise en expression dramatique et puis oui, j'ai fait une mineure, mais par la suite j'ai fait ma maîtrise et puis J'ai orienté toute la recherche du mouvement sur l'expression corporelle de la personne. Et là où je voyais des blocages, ben, je trouvais des exercices qui pouvaient dégager ces blocages-là. Fait que, oui, la mouvance en eau, l'aquamouvance, c'est vraiment une approche qui permet de... C'est vraiment une approche de libération corporelle. Puis, je te dirais aussi de libération de l'être. C'est vraiment un espace où le corps apprend à bouger librement dans toutes ses parties, mais aussi ça crée de l'espace dans le corps, entre les vertèbres, partout. Ça crée de l'espace et ça permet à l'intelligence du corps de dégager et que chaque chose prenne sa vraie place. C'est la même chose sur la psyché. En contrepartie, c'est-à-dire en analogie, en même temps que ça, la personne va développer son potentiel. Puis, ça va lui permettre de se dégager de choses qui étaient plus timides chez elle ou de certaines émotions ou de tensions aussi qui existent dans son corps. Donc, avec le temps, ça s'est très raffiné. C'est comme ça que tout le chemin... les gens, en se ramenant, en apprenant à se ramener à eux-mêmes, à ne pas se juger, à explorer leur corps, à apprendre à être témoin, à regarder comment ça se passe, où sont les blocages, à sentir leur corps et à voir comment ça se dénoue, ben ça l'amène la personne de plus en plus proche d'elle-même. Et puis, le témoin en elle, la personne qui observe, la personne qui regarde sans jugement, cette attitude-là, qui est une attitude spirituelle, selon moi, va se développer davantage parce qu'on la pratique, parce qu'on est dans cette attitude-là, justement. Donc, c'est comme ça que la personne va épanouir sa dimension intérieure.
OK. Donc, au début, parce que vous l'avez mentionné, il y a des gens qui viennent vous voir qui sont très à l'aise à bouger dans l'eau. En même temps, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Par contre, tout le monde font des prises de conscience personnelles, qu'ils aient de l'aise ou non, et cela fait surgir des questions. Comment ça fonctionne, Carole Dion-Vichy, pour que depuis 1978, vous avez pu rassembler et former d'autres professeurs? Admettons que moi, là, je suis une personne qui est à l'aise dans l'eau, je ne me rends pas compte que j'ai peur. J'ai des peurs qui vivent, qui sont en moi. Et en prenant vos formations, vos cours, tranquillement, pas vite, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, une prise de conscience, et voilà, un nœud se produit, une tension se produit, une communication s'établit. Vos formations, parce que vous offrez des formations à des personnes qui sont dans le domaine, soit du domaine du conditionnement physique ou dans le domaine justement de la connaissance de soi, du cheminement personnel. Quelles sont les formations que vous offrez et comment vous arrivez à rassembler tout ce monde-là pour qu'il y ait une continuité?
Bon, depuis que vous avez parlé dans le dernier bout, il y a beaucoup de choses qui ont été sauvées.
Oui.
Et je parlerai tout de suite de la formation.
Merci,
Je vais d'abord partager certaines choses dont quand vous avez parlé de nœuds tout à l'heure, ben c'est vraiment les nœuds qui se les tensions qui se dissolvent, les nœuds qui se dissolvent et que qui vont permettre au corps et à l'esprit de s'épanouir. Quand vous m'avez demandé plus longtemps auparavant d'où ça venait, je vous ai dit j'ai créé ça de moi-même. Par contre, au début, j'ai fait ma première partie toute seule et puis j'étais à Québec. Je suis arrivée à Montréal pour continuer mes études. Et là, j'ai vu une annonce dans un babillard, sur un babillard qui annonçait le yoga aquatique. Et puis, j'étais curieuse, donc j'ai téléphoné pour voir de quoi il s'agissait et j'ai pris un cours. Et puis, j'ai vu comment il y a des... Dans nos objectifs écrits, on nommait les choses différemment au niveau du titre, mais dans les objectifs, ça se retrouvait à la même chose. Puis, dans le vécu, c'était la personne que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'était Roger Perron, qui faisait le yoga aquatique, qui, lui, était professeur de plongée, et puis qui était aussi quelqu'un qui faisait du yoga et de la méditation. Donc, j'ai partagé une session avec lui, et ça m'a permis de découvrir le masque de plongée. Et puis, ça fait que je connaissais le masque de plongée auparavant, les outils de la plongée, mais pas beaucoup parce que j'avais des problèmes à aller en partie profonde à cause d'une problématique d'oreille. J'étais tellement à l'étape où j'étais à ce moment-là dans ma vie, dans ma recherche, dans mes découvertes. J'étais emballée par le fait que le nez soit bouché et que l'on puisse bien voir. Donc, cette partie-là m'a permis, c'est-à-dire a réveillé chez moi le goût d'explorer encore plus. Et dans le cours, je ne me suis pas rendue à utiliser les palmes. Oui, j'ai utilisé, mais je suis revenue vite à sans palmes, sans tuba, juste pour utiliser le masque, pour vraiment voir tout le potentiel corporel que ça me donnait. Fait que venant du monde de l'expression dramatique, expression corporelle, danse, j'étais d'autant plus éveillée au mouvement libre et puis à moi-même déjà explorer à travers une sub-danse aquatique. Ça c'était une influence importante au niveau de l'aquamouvance comme telle.
D'accord.
C'est que là, à ce moment-là, vous me parlez de formation, mais
ben oui.
Faut quand même dire que je donne quand même 3 formations dans 3 domaines différents. Donc là, on parlait de la mouvance en nous. Mais quelques années après, j'ai développé l'aquamassage, l'aquamassage Vichy, puis le massage Aquavie. Ça fait que il y a ces 2 massages différents, un qui est sous l'eau, c'est le premier que j'ai créé, et puis le second, c'était avec des flotteurs. Et tout ça, c'est arrivé en même temps que l'eau chaude. C'est-à-dire que à un moment donné, je me cherchais une piscine parce que ce qu'on avait, ils devaient faire des rénovations. Ça fait que je suis arrivée sur une piscine qui était chauffée dans un centre pour handicapés physiques. Donc, j'ai pris cette piscine-là. Et puis, le fait qu'on se retrouve dans l'eau chaude faisait qu'on pouvait jouer dans l'eau pendant des heures et des heures. À cette époque-là, j'avais le libre arbitre d'utiliser la piscine selon mes besoins, même si j'étais toute seule dans l'eau. Puis ça m'a permis vraiment de prendre vraiment du temps pour explorer beaucoup, Puis ensuite, j'ai eu des élèves, j'ai exploré beaucoup avec mes élèves. Et il y avait deux bassins d'eau, un bassin déjà bien chauffé à 88 degrés, c'est-à-dire 32 Celsius, et l'autre bassin qui était à la température 98 degrés Fahrenheit et 37 degrés Celsius. Donc, ces deux conditions-là de température de piscine, plus le masque, ont vraiment fait que j'ai vraiment travaillé longtemps et plusieurs heures dans l'eau. Puis aussi, le fait d'utiliser l'eau chaude et puis de promener mes amis, mes élèves dans l'eau chaude, j'ai développé toute une approche au corps pour amener les personnes à s'abandonner davantage pour aller sous l'eau, mais aussi toute une technique pour créer un enchaînement de mouvements, un pattern à travers lequel je passe à travers le corps pour créer une séance, toute une séquence de massage. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait le massage Aquavici, pour tout le travail sous l'eau. Et puis, après ça, à cet endroit-là, il y a un physiothérapeute qui est arrivé, qui a mis au point des flotteurs à un moment donné. J'ai sauté sur l'occasion d'utiliser des flotteurs au cou et aux chevilles pour permettre aux gens d'être plus relax encore, plus détendu, puis de pas nécessairement avoir le challenge d'avoir à aller sous l'eau. Donc, ça a créé une deuxième forme de massage avec des séquences différentes où on passe à travers tout le corps. Et puis, c'est ça, on fait le tour du corps et puis on amène de la détente, de la souplesse, on articule, on désarticule les tensions, on réajuste tout à travers des mouvements d'ondulation pour dégager, libérer le corps. Fait que les personnes sortent de là et puis ils sentent comme s'ils avaient été dans le ventre de leur mère, puis se sentent comme bercés avec plein d'amour, plein d'empathie.
D'accord. Je vais revenir à la peur, Carole Dion-Vichy, et aussi, je vais mentionner votre site web. C'est tellement intéressant que j'ai oublié de le faire. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent, donc je vais et qui se promènent sur Internet en même temps. Donc, on pourra découvrir votre site parce que j'ai plein d'autres questions là qui ont monté. Je reviens à cet exemple de comment vous prenez un étudiant une étudiante qui est à l'aise dans l'eau et qui a une peur qui surgit après quelques cours, peut-être une prise de conscience qui se fait, comment vous aidez cette personne-là à se dépasser elle-même. D'abord, votre site web. Ce que je vais faire, Carole, c'est que je vais épeler le nom de votre site web et si je me trompe, vous me corrigez. D'accord?
OK.
D'accord. Alors, on peut retrouver Aquavimouvance sur Internet en utilisant votre engin de recherche préféré. Vous écrivez sur l'URL sur Internet l'adresse suivante, Aquavimouvance. A-Q-U-A-V comme victoire, I-E-M-O-U-V comme victoire, A-N-C-E. .com. Est-ce exact?
Oui, donc à quoi
Oh,
vie,
right.
mouvance M comme maman, puis
Oui.
mouvance VAN, N comme Normand, CE.com.
Et
Oui.
voilà. Et voilà. Et on vous retrouve naturellement sur partout. Les habitués de cette émission savent qu'il y a un engin de recherche très performant. Vous allez sur le site et vous n'avez qu'à écrire à quoi. Et automatiquement, le reste des pages qui ont été créées où on vous retrouve apparaissent, soit à quoi mouvance et à quoi vie mouvance. Je rappelle aux personnes qui sont à telle écoute que vous pouvez syntoniser cette émission sur iTunes. Donc, les personnes qui ont un téléphone intelligent peuvent télécharger les émissions, les sauvegarder en archive. Nous sommes diffusés dans 55 pays. Bref, c'est le bonheur total. Il y a des milliers de personnes qui écoutent cette émission. Carole Dion-Vichy, je m'en serais voulu de ne pas mentionner votre site web. Allez visiter À quoi vie mouvance. Il y a vraiment de tout. Hein? On l'a mentionné au début, là, les formations bébé dos, massage à quoi vie et à quoi yoga danse. Bref, tout y est. Tout y est. Carole, donc cette question qui fait
sur la
que,
peur de l'eau.
Et voilà. Votre formation professorale ne devient pas enseignant à l'école en aquavie mouvance qui veut. Il y a un processus qui se produit. Les gens viennent vers vous. On dirait qu'il y a une sélection naturelle qui se fait parce qu'on prend votre cours et on se rend compte que ce n'est pas seulement de l'aquadance. Hein? Ce n'est pas seulement des mouvements, il y a toute un travail de profondeur qui se fait, vous l'avez mentionné, les gens sortent de votre cours et ils se sentent comme s'ils étaient dans le ventre de leur maman, ils se sentent bercés, ils se sentent bien en paix et en harmonie. Pouvez-vous nous décrire les formations que vous offrez qui vont mener à une certification enseignant-enseignante à quoi vie mouvance?
Je vais nommer les trois formations.
D'accord.
Qui sont la formation pour les bébés dans l'eau, pour les bébés de 1 mois à 5 ans. Il y a les formations en massage dans l'eau, massage à quoi vie et massage à quoi vie chi. Aquavit avec des flotteurs et Aquavici sous l'eau. Et il y a la formation en aquamouvance qui comprend le yoga mouvance, l'aquadance et les nages ondulatoires. Donc, à travers lesquels ils vont aussi y avoir des cours plus spécialisés pour la peur de l'eau, les jeux coopératifs, la relaxation profonde, différents cours qui vont être offerts. Maintenant, j'aimerais ça vous énoncer comme un parcours d'un individu normal qui commencerait à zéro, puis par où tout le chemin que cette personne-là passe.
D'accord.
C'est que si on commence avec quelqu'un qui a peur de l'eau, j'avais parlé, on avait parlé tantôt qu'il y avait un minimum requis pour commencer les cours, donc de flotter sur le ventre, sur le dos et se retourner. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas ça et on s'est spécialisé pour toutes les personnes qui ont des problématiques à juste mettre sa tête à l'eau, à respirer quand ils nagent ou qui sont pas capables de flotter ni sur le ventre ou sur le dos, qui ont de la misère juste à marcher sans se tenir sur le bord. Donc, il y a des gens qui ont eu toutes sortes de traumatismes. Donc, on a développé vraiment une approche très spécialisée pour cette clientèle-là. Ensuite, vous avez aussi la clientèle de gens qui nagent, mais qui ont beaucoup de difficultés avec leur respiration. Donc, on a tout un travail pour aborder le corps d'une façon différente pour que vraiment la personne puisse utiliser librement son cou, ses yeux, sa pensée, ses émotions. comment utiliser l'élongation de son corps, comment s'abandonner dans l'eau, comment rouler avec elle, comment l'aimer et non la battre. Hein, oui. Parce que la majorité des gens, quand ils font leur mouvement de bas, ils battent l'eau. Donc, c'est toute cette subtilité-là que les gens qui font la natation traditionnelle peuvent apprendre, soit en cours privé, en petit groupe, par rapport à la natation régulière, ou soit dans les cours d'aquamouvance qui vont avoir les mêmes objectifs, mais pas orientés sur la natation régulière. Donc, les gens, ceux qui s'engagent plus dans la voie de l'aquamouvance, ils vont apprendre à utiliser leur corps, comme on l'a dit auparavant, puis ils vont apprendre à faire onduler leur corps. Ils vont apprendre vraiment toutes ces formes d'ondulation-là qui viennent travailler sur, en même temps, qui viennent rencontrer chakra, qui passent, en passant à travers le corps, qui viennent travailler sur chacun des chakras, des centres énergétiques. Ça fait que là, la personne, avec le temps, elle va apprendre les différentes nages ondulatoires. Elle va apprendre aussi à danser sous l'eau. Et puis, elle va apprendre aussi à faire des mouvements répétitifs pour amener dans un espace de méditation. Elle va apprendre surtout à utiliser son cou, ses yeux et sa pensée et l'élongation. C'est les principaux trucs qui bouleversent, qui changent complètement l'attitude qu'on a par rapport à l'eau et par rapport à notre nage personnelle. Ah. Fait que c'est ça. Puis, il va y avoir les personnes ensuite qui vont s'intéresser, qui vont vouloir prendre un massage à un moment donné, qui vont essayer cette expérience-là de... comme on a dit tantôt, là, de se sentir bercé dans les bras de notre mère. Et puis, mais qui travaille quand même toutes les régions du corps de façon très spécifique. Donc, il y a cet aspect-là qui peut se passer autant avec flotteur que sous l'eau, selon l'eau, la personne est rendue dans son cheminement. Et puis, il va y avoir ceux qui vont se diriger vers la formation. Donc, les gens qui nous arrivent, ça fait que là, on va faire le bloc formation que tu me demandes depuis si longtemps. Bon. Ça fait que là, il y a des gens qui arrivent qui, en général, ils sont à l'aise dans l'eau. Soit qui viennent de la natation traditionnelle ou soit qui ont toujours été des fervents de l'eau, des amants de l'eau, mais sans nécessairement aller dans un domaine compétitif, mais qui se baignent souvent puis qui aiment être libres dans l'eau ou bien faire des longueurs. Ça arrive aussi que des personnes d'entre elles, parce que j'ai une majorité de femmes qui viennent prendre nos cours. Donc, ces personnes-là, quand ils nous découvrent, ils sont tellement emballés de rencontrer quelqu'un qui les rejoint dans comment ils vivent l'eau. Ou parce que moi, je l'ai cherché dans mon temps, puis je ne l'ai pas trouvé. Puis j'étais tellement heureuse quand j'ai rencontré Roger Perron et par la suite Raymond-Louis Lacaire plus tard, qui avait lui-même inventé quatre nages à l'époque. Et puis moi, que j'avais inventé mes nages aussi. Puis qu'ensemble, on a pu partager notre passion de l'eau et se montrer des nages mutuellement, se montrer des petites choses. Et puis continuer à faire notre recherche individuellement. Donc, chacune de ces deux personnes-là que j'ai nommées ont donné des orientations, moi y compris. Là, donc, nous trois ensemble, on est trois Québécois qui avons quand même orienté notre démarche vers des fonctions différentes. Donc, si je regarde la dernière personne que j'ai nommée, donc Raymond-Louis Lacan, qui a développé vraiment la nage en mer, avec des nages apparentées, qui ressemblent soit aux miennes ou qui ressemblent soit à la natation traditionnelle, mais ça se situe un peu entre les deux. Roger Perron, lui, il l'a orienté vers tout le travail, tout le jeu qui peut se faire dans les rivières, dans les rapides, en bas des courants, pour jouer vraiment comme des poissons dans l'eau, bien comme on peut faire en kayak sur l'eau. On le fait en dessous de l'eau, on joue avec les courants, et puis ça aussi, ça dénote de mouvements ondulatoires. Donc, moi, la tangente que j'ai prise, ben c'est d'aller nulle part. C'est-à-dire mon travail peut se faire dans une piscine hors pair, avec de l'eau à la poitrine, et l'expérience aquatique, l'entraînement aquatique, ce n'est pas un entraînement, parce que c'est un entraînement, pas dans un sens d'entraînement compétitif, mais un entraînement à être à l'écoute et à bouger notre corps harmonieusement. Donc, ça peut être un entraînement pour la respiration, pour le travail respiratoire, mais pas envisagé de la même façon que la natation traditionnelle en faisant des longueurs. Donc, c'est vraiment, le travail se fait vraiment sur place, dans un arrondissement à peu près comme une piscine ronde hors terre, là. Ça prend pas beaucoup d'espace pour s'articuler. Par contre, dans les nages que j'ai mis au point, une fois qu'on a fait les exercices sur place et qu'on les vit bien dans notre corps, on les comprend bien, ça ne nous empêche pas de se rendre quelque part, de traverser une piscine, d'en faire des longueurs si on veut, mais c'est pas dans un but, un but de performance, mais dans un but de plaisir et de feeling de notre corps par rapport à l'eau. C'est comme si on vivait en tant que dauphin, si on veut, dans l'eau, que le plaisir de bouger dans notre tronc, de tourner, d'onduler. Puis il y a des ondulations qui sont vraiment tellement, elles font tellement un travail corporel intense et profond, mais mon Dieu, c'est à peine si on avance d'un centimètre. Ça fait que, tu sais, un centimètre, c'est exagéré, mais c'est à peine si on avance d'un pied. Fait que, tout ça pour dire que la démarche, elle est à l'intérieur de soi, dans comment on ressent notre corps. Elle n'est pas reliée à l'espace extérieur, mais à l'espace intérieur. Et les gens qui viennent me voir pour les formations, c'est de ça que je leur parle. Pour qu'on se retrouve... pour qu'ils soient dans le bon choix de formation. Donc, en général, ils viennent me voir parce qu'ils cherchent quelque chose de vraiment différent. Puis, je pense que je leur offre quelque chose de très différent.
Effectivement. Effectivement. Effectivement, vous offrez quelque chose de différent et en même temps, ça revient toujours à la même chose, c'est la découverte de soi-même. Ça me surprend qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui prennent vos formations parce que un homme, ça ne pleure pas. Et là, si on est dans l'eau, ça ne paraît pas si on pleure. Il y a des gens qui prennent vos cours et que vous leur montrez les techniques que vous enseignez d'ondulation qui vont justement pleurer. Il y a des émotions qui se produisent. Pouvez-vous nous donner des exemples de transformation, de témoignages que vous avez entendus, que vous avez vécu vous-même?
Vous avez encore lancé deux, trois sujets dans
oui,
votre question.
Oui, absolument.
Avez parlé de l'homme et dans la place qu'il occupe dans nos cours.
Oui.
Et puis là, vous m'amenez sur la voie des émotions. Donc, oui. Je vais vous parler un petit peu des émotions, mais je vais revenir sur la place de l'homme dans nos cours. Donc, et sa physiologie et sa dynamique. Donc, au sujet des émotions, oui, plusieurs personnes connaissent le rebirth dans l'eau, où on respire et puis on va rentrer dans des espaces de régression. Je dirais que dans le massage dans l'eau, c'est des choses qui peuvent arriver. On ne court pas après, mais quand quelque chose est mûr dans la vie de la personne, que ce soit un travail de régression ou ça peut être autant de la régression que de l'extase. C'est pas nous qui choisissons ça, c'est vraiment il y a un timing, il y a un moment dans la vie de la personne qui fait que sa sensibilité va aller dans un sens ou dans l'autre, ou dans quelque chose de tout à fait méditatif ou calme. Il n'y a pas de connotation au départ. Il arrive, qu'est-ce qui arrive? Et puis, oui, il y en a qui vont pleurer parce qu'ils touchent des peines profondes. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent pleurer parce qu'ils vont toucher des joies profondes. Fait que ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, on n'est pas ici pour faire de la thérapie émotionnelle. On laisse ça aux psychothérapeutes. Mais ça n'empêche pas que dans tout ce travail-là corporel, que ce soit en aquamouvance, yoga mouvance, yoga danse, ou en massage, ben il y a quelque chose qui se passe chez la personne qui l'a fait grandir, qui l'a fait continuer à évoluer, continuer à prendre des prises de conscience, parce que c'est du travail de conscience corporelle dans l'eau. Ça éveille la conscience, pas seulement sur le corps, sur toutes sortes d'aspects. Donc, c'est ça pour. On n'est pas là pour faire une thérapie, mais il y a un cheminement personnel qui se passe de façon organique. Et c'est entendu que quelqu'un qui fait du massage dans l'eau ou qui fait un cours plus d'aqua-yoga danse, si la personne a besoin de se livrer ou de partager quelque chose verbalement, mais c'est entendu que le professeur ou le massothérapeute est là pour être présent jusqu'à la fin et être à l'écoute de la personne, pas seulement physiquement, corporellement, mais aussi sur le plan verbal aussi, pour continuer son écoute avec la personne. Fait qu'il n'y a pas de règles, mais simplement la voix du cœur, hein, c'est la complicité, le partage qui se passe entre nous, la communication verbale et non verbale et corporelle aussi.
C'est beau. C'est beau ce que vous nous racontez. Donc, au niveau des. D'accord, je vous laisse continuer. Donc, on a touché ce premier volet des émotions, comment vous gérez les émotions. Je parlais des hommes,
Oui.
le genre
Donc,
masculin, parce que je suis un homme, sauf que c'était surtout une entrée de jeu, parce que c'est certain, vous l'avez dit là, hein, c'est un chemin personnel qui est organique là. Vous ne provoquez rien dans vos formations, dans vos cours, vous laissez la place. Vous laissez la place aux émotions, au vécu, et vous personnalisez, si je peux m'exprimer ainsi, vos interventions. Et c'est exact. C'est un peu comme ça que ça se
Oui.
passe, donc.
Oui, c'est à peu près comme ça.
Ça prend
Donc,
combien de temps
ça
pour
c'est.
devenir un enseignant, un professeur en aquavie mouvance?
Ça peut prendre autour de 9 mois, en général.
D'accord.
Fait que, avant de développer le côté organisationnel de la formation, on va revenir aux hommes.
Oui.
Pour le moment, il y en a 90% de la clientèle que c'est des femmes. Et puis, l'âge peut autant varier entre 25 ans et 55 ans et parfois plus. pour la formation. Pour les soins, les cours, c'est tous les âges. Mettons qu'on n'a pas beaucoup d'adolescents qui viennent, ils n'ont pas l'argent qu'il faut peut-être, puis c'est pas encore offert dans les écoles. Parce que la clientèle qu'on a, qui viennent pas nous voir, c'est toute la clientèle d'âge scolaire à partir de la première année là, jusqu'au début cégep. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'étais partie tantôt sur les gens de clientèle qu'on a, sur les âges, puis aussi le rapport la présence des hommes dans nos cours. Donc on sait que bon, les hommes pour avancer ont les jambes qui calent, qui sont très pesantes. Ils ont un corps qui est musclé, qui est plus costaud que celui de la femme en général. Et puis le centre de gravité est plus bas. Donc chez les hommes, quand ils nagent, pour que ça aille bien, il faut qu'ils soient bien propulsifs des bras et des jambes pour avancer sans que ce soit trop difficile. Ça fait qu'on a là des gens qui sont à l'aise avec l'eau, qui peuvent être sportifs. Les hommes qui sont plus ronds vont avoir plus de facilité en général. Bon, puis les hommes qui viennent dans nos cours, ben ça va être les hommes qui ont un certain âge en général, là, qui approchent de la cinquantaine et plus, et puis qui ont des difficultés physiques et qui peuvent pas performer comme avant, qui peuvent pas utiliser leur corps de la même façon qu'avant. Donc ils cherchent ceux qui aiment l'eau, parce que si ont d'autres outils, ils vont aller voir des outils sur Terre qui sont plus en douceur. Mais ceux qui aiment l'eau, ils vont nous téléphoner, ils vont nous trouver quelque part à un moment donné. Donc ces gens d'hommes-là qu'on a dans les cours, qui ont besoin de faire une activité plus douce dans leur corps. Et puis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'aimer ça parce que c'est tout ce qu'ils ont. Et ils aiment ça. Finalement, ils aiment ça. Donc, ce qu'on fait pour les aider, on leur met des très petits flotteurs aux chevilles pour qu'ils soient égaux aux femmes dans leur apprentissage, pour pas qu'il y ait cette tension-là dans leur corps qui fait qu'il faut toujours qu'ils se réajustent parce que ils sont toujours, ils flottent en diagonale, pour pas dire pour certains à la verticale, mais c'est une diagonale assez prononcée, donc pour nos cours, on réajuste avec des mini-flotteurs. Et à notre grande surprise, après quelques temps, qui est variable d'une personne à l'autre, après quelques temps, des fois, juste le fait comme d'aller aux toilettes, de revenir, quand ils reviennent dans l'eau, spontanément, ils oublient de mettre leur flotteur parce qu'ils ont enlevé, ils oublient de les remettre. Et ils font les exercices et ça se débrouille bien. Parce que leur corps a découvert une attitude différente que celle de se battre, que de celle d'être obligé de forcer, de performer, de s'ajuster à cette flexibilité-là qui n'est pas évidente. C'est pas un conditionnement, c'est une réalité corporelle. Donc, tout leur corps a cette mémoire, vit avec ça, avec le centre de gravité qui est plus bas.
Mais comment on fait comment on fait justement pour faire en sorte que ils vont oublier de les hommes vont oublier s'ils sortent de l'eau et ils reviennent
c'est au tout début de cette séance là on avait parlé du coup des yeux, de la pensée, de l'élongation du tirement du corps, l'élongation du corps, toute l'ouverture de la poitrine, dégagement des épaules, toute l'énergie, elle va s'en aller vers le haut. Et puis, ça va équilibrer ce qui passe en bas.
Ah! Hein?
Fait que c'est une approche différente Puis certaines choses, des fois, ça peut être un petit peu plus long que des femmes à apprendre. En général, les hommes apprennent plus vite que les femmes dans certains domaines, dans beaucoup de domaines physiques, mais là, en général, c'est le contraire. Là, les femmes vont développer leurs habiletés un petit peu plus rapidement que les hommes, dû à cette particularité-là du centre d'équilibre.
D'accord.
Bon, c'est comme ça que je t'ai expliqué la dynamique de l'homme. Puis je les invite à venir essayer. Mais c'est entendu que toutes les personnes qui ont besoin de il faut venir comme avec l'attitude d'un cours de relaxation, de détente ou de yoga ou de plaisir. Puis toutes les personnes qui ont besoin de performer, qui sont des gros sportifs, puis les femmes aussi, hein, les femmes très sportives qui n'ont pas nécessairement le goût de faire un cours de relaxation, ils vont trouver ça trop lent chez nous, ils vont trouver ça, oui, c'est dynamique, mais ça répond pas à leur soif d'intensité corporelle au niveau de la demande énergétique. Nous, on est en sens contraire. Ça fait que ça clarifie. C'est pour ça qu'on s'associe, entre autres, bien au yoga, au tai chi, au Feldenkrais, à toutes les approches douces, du mouvement de conscience corporelle. D'ailleurs, ce qui est important de manifester, de partager ici, c'est en quoi le yoga aquatique et du yoga. Je dirais l'aqua-yoga mouvance. En quoi c'est du yoga? Parce que je tiens à dire que ce n'est pas le yoga sur Terre qui est mis dans l'eau. Absolument pas.
D'accord.
La Terre, c'est la Terre, puis l'eau, c'est l'eau. Puis l'eau, elle a une façon de fonctionner sur la planète, elle a une façon de bouger. Puis notre corps est sculpté par le mouvement de l'eau. J'en dis beaucoup, là. Il y aurait tout un cours à faire d'une couple d'heures, au moins, pour juste expliquer la phrase que je viens de dire. Mais je n'élaborerai pas là-dessus. Mais je veux quand même dire que le travail qu'on fait dans l'eau, c'est du travail ondulatoire, c'est du travail de respiration. C'est le corps partout qui apprend à respirer. C'est que la personne, elle va apprendre à ouvrir et à rétracter, ouvrir et fermer. Et quand on ouvre puis on ferme, on apprend ça partout dans notre corps. Mais particulièrement au niveau du tronc, en lien avec les chakras. On va apprendre cette grande respiration-là dans tout notre corps qui correspond à la respiration par la bouche, puis à toute la respiration du prana, qui est partout autour de nous et en nous. Donc, cette ondulation-là qui nous met en lien, en unité avec l'univers de l'eau, avec notre corps, comment il bouge de façon organique, de façon naturelle, c'est ça qu'on apprend. On apprend à bouger de façon organique dans l'eau. Puis même ceux qui font la natation traditionnelle et qui viennent nous voir pour améliorer leur natation traditionnelle, on la travaille d'une façon différente de ce qui est proposé à la Croix-Rouge ou dans toutes les approches traditionnelles de la technique de la natation. On s'est entre autres laissé beaucoup inspirer par la méthode de Stephen Shaw, qui est basée sur la technique Alexander, qui est aussi une approche de conscience du corps et de détente tout en étant en tonus, être dans une relaxation qui est tonifiée. Donc, on joue avec cette attitude habitudes corporelles-là qui devraient nous suivre partout, en dehors de l'eau ensuite, quand on marche et quand on danse et quand on bouge, quoi. Donc, c'est cette unité-là avec le corps, avec l'eau, avec la respiration, avec tout ce qui ondule. Et puis, je vous demande de faire une analogie personnelle pour essayer de voir tout ce qui est courbe et tout ce qui est non courbe dans la nature. Donc, dans l'eau, c'est entendu qu'on travaille beaucoup la courbe, mais on va travailler aussi les angles droits. Donc là, je n'élaborerai pas là-dessus, mais on travaille sur ces deux dynamiques-là, puis on va travailler aussi sur tout ce qui est mou, relâché, et tout ce qui est très dynamisé avec beaucoup de power, mais relativement sur place. Fait que, puis on a jamais les pieds dans l'eau. De temps en temps, on peut faire des exercices en aquadance, en subdance, où on va se mettre debout, une personne debout, une personne en mouvement, puis on va varier ça. Les deux personnes sous l'eau, les deux personnes debout, on va faire toutes sortes de jeux dans l'eau. Pour vraiment exploiter notre corps dans toutes sortes de dynamiques corporelles.
Vous êtes une encyclopédie dans le domaine de l'aquamouvance, de l'aquavie-mouvance, Carole Dion-Vichy. Vraiment, je crois que toutes les écoles de yoga doivent savoir ce qu'est la morphologie de l'eau, que votre travail est sérieux, que c'est important. Carole, nous allons prendre une légère pause parce que j'ai encore plein de questions à vous demander. C'est tellement intéressant, merci. Merci beaucoup de nous avoir mis dans le contexte. On a parlé un tout petit peu de dauphin tout à l'heure. Vous avez fait cette analogie. Nous allons écouter une pièce d'un auteur, d'un musicien que j'admire beaucoup, qui se nomme André Ripa. Une pièce qui s'appelle en anglais Flight. Vous restez avec nous, Carole, et dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième partie de Yoga Partout International. Notre invitée, Carole Dion-Vichy, dans quelques instants. Thank you. Ah. Alors c'était André Ripa, ce musicien de l'âme. Carole Dion Vichy de l'école Aquavi Mouvance, vous qui avez créé cette méthode de mouvance en eau à la fin des années 70, les formations, les cours que vous offrez, bébé d'eau, massage aquavie, aquayoga danse aussi. J'ai l'impression et j'ai ce sentiment de revenir à la maison lorsque je vous entends parler, même si c'est un discours que nous ne sommes pas forcément toujours habitués d'entendre, ça m'inspire à énoncer que enfin, il y a une place pour à quoi dynamiser qui nous sommes véritablement, pour régénérer notre joie intérieure. Mes cellules se sentent contentes quand je vous entends parler, Carole, et j'aimerais dans cette deuxième partie de parler un peu plus intimement dans le sens que vous avez un chemin spirituel qui est très riche. Comment vous décrivez ce qu'est l'éveil spirituel pour vous? Comment vous en êtes venu là à réorienter votre parcours de vie personnel?
Oh mon Dieu, quelle question. Bon, savoir où commencer aussi, là. Ben, j'ai eu des maîtres spirituels dans ma vie. Il y a eu une époque quand je suis partie faire ma maîtrise à Montréal, que je suis partie de Québec à Montréal. Je pourrais dire que c'était à cette époque-là, quand j'avais autour de 28 ans. 20, c'est ça, 28, 30 ans à peu près, là, au début de la trentaine, que mon chemin a commencé, que j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui existait comme être spirituel, parce que partout il y avait des conférences, on avait la visite de certains maîtres parfois, et puis j'avais des amis qui faisaient partie de groupes, tout ça, c'est fait que j'ai papillonné vraiment, et puis j'ai commencé à goûter à plusieurs méditations, et puis je me suis arrêtée à deux principaux groupes. D'abord, j'ai fait la méditation zen avec des shimaru, puis pas avec lui-même là, mais ses enseignements. Puis j'étais allée en France aussi faire des sessions. Et puis j'ai aussi été avec le maître Osho. Et puis puis avec lequel j'étais allée voir aussi en Oregon. Donc j'ai suivi ce parcours-là, d'où le nom de Vichy. Ma Prem Vichy, donc Vichy veut dire vague de l'océan. Prem Vichy, vague de l'océan d'amour. Donc, que je pense que j'assume bien dans mon univers de l'eau. C'est ça. Ce que j'ai fait avec le groupe de Osho, j'ai fait beaucoup de méditation, beaucoup de thérapie. Et puis, je pourrais dire que c'était mon sport à l'époque, d'aller d'une thérapie à l'autre, d'un groupe à l'autre de conscience, de travail sur la conscience. Et puis, par la suite, j'étais plus vers. J'ai voulu voir nos racines avec les Autochtones, et puis j'ai commencé le chemin rouge. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, je dirais, à intégrer dans le quotidien plus que ce qui s'était passé dans les autres approches auparavant avec la méditation zen, avec toutes les approches de Osho. Et puis, là, avec les Autochtones, avec la nature, être avec elles dedans, avec les quêtes de vision, avec la danse de la lune, puis toutes toutes les rencontres avec le grand-père commandant chez les Algonquins. À travers les années, je me suis rendu compte que ça le j'ai descendu à l'intérieur de moi plus à intégrer la planète Terre avec toute sa nature, avec tous ses éléments, du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, puis les terres, de toutes rencontrer ces dimensions-là à travers ma vie au quotidien. Puis aussi, mes relations ont changé. C'est drôle à dire, mais à mon époque, je disais pas merci. Pour moi, de faire mon possible, d'être bonne, et puis tout le monde avait comme la même job, on était mère de famille, on faisait ce qu'on avait à faire, puis tout était du mieux qu'on peut, tu sais. Mais je disais pas merci. C'est comme si je connaissais pas la gratitude. C'est comme si tout ce qui était là était comme un dû, puis tout le monde avait sa job à faire, sa planète. Mais tout ça, ça l'a changé, puis avec le temps, bien entendu. Puis je peux dire que la chose qui m'a changé le plus, c'est d'apprendre à dire merci. À dire merci pour tout ce que je vois, pour tout ce que j'entends, pour tout ce qui est en moi, pour tout ce qui est à l'extérieur de moi, pour tout, pour toi, Daniel, pour toutes les circonstances de la vie, de voir tout comme un privilège. Puis c'est pas de dire, c'est pas le pattern du positivisme acharné, c'est vraiment d'être en contact avec la réalité, avec ses difficultés, avec ses happenings, avec ses grâces, avec tout ce qui nous demande, qui nous arrive, que ça nous demande de la force, de l'enracinement, de l'enlignement, puis tout ça, ben en apprenant à travers la gratitude, en apprenant à dire merci, puis à laisser ouvrir notre cœur graduellement de plus en plus pour parce que le cœur c'est comme tout, il peut pas s'ouvrir trop vite parce que comment je dirais ça, donc il y a comme un équilibre en toute chose, il s'ouvre au fur et à mesure de ce qu'il peut intégrer. Puis, c'est ça, c'est comme il s'ouvre tant dans les difficultés que dans les moments de joie, tu sais. Puis, en aquamouvance, ben, ce qu'il y a de particulier, c'est que parce qu'on apprend à bouger harmonieusement en lien avec la création, un lien avec l'eau à travers notre corps, à travers la respiration, tout ça. La respiration par la bouche, mais aussi la respiration partout dans notre corps. C'est toute cette démarche-là qui permet à nos cellules puis à notre ADN d'être tout comme de se reconnecter. Puis, parce que tous ces mouvements-là qu'on apprend puis qu'on travaille dans toutes les directions, que ce soit le devant, le derrière, la gauche, la droite, les torsions, les mouvements souples, les mouvements droits, intenses, mous, relaxés, ou trouver la recherche du tonus juste. Toute cette démarche-là, ça vient équilibrer. Puis, si on arrive au cours puis qu'on est en peine, on va sortir en joie. Si on arrive en joie trop exubérante, on va se retrouver plus équilibré. Fait que c'est tout ça, toutes cette structure-là du mouvement qui est installée, cette structure-là, on la retrouve dans l'ADN, on la retrouve dans la transformation de la cellule, on la retrouve partout dans la création. Donc, c'est ce qui nous amène à travailler l'équilibre, puis l'harmonie, puis de laisser, de reconnaître une joie qui est profonde à l'intérieur de nous, une douce paix qui apprend à pas s'énerver avec la vie. C'est comme on n'essaye pas, on la goûte. On la goûte graduellement, ça vient un petit peu par petit peu. C'est la vie qui nous forme, c'est puis l'eau est un bel outil pour se former à vivre mieux la vie encore. Comme il y a plein d'outils aussi, mais l'eau c'est mon dada à moi. Ça fait que grosso modo, c'est les grandes lignes de mon chemin. Ça continue.
Je voulais pas amener un sujet qui peut peut-être être gênant, pas trop personnel. Carole Dion-Vichy de l'école Aquavie Mouvance, toujours dans ce chemin spirituel, votre attrait pour la périnatalité, y a-t-il un lien avec les enfants qui naissent ou qui sont pris dans le fœtus, le cordon ombilical alentour du cou? Y a-t-il un lien entre votre recherche personnelle et les différentes techniques que vous enseignez? On dit souvent, Carole Dion-Vichy de l'école Aquavie Mouvance, que nous enseignons ce que nous voulons apprendre. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important dans votre parcours?
Et là, vous avez touché trop d'affaires. Là. Vous m'avez parlé d'accouchement dans l'eau. Puis là, vous me demandez ce que j'ai appris qui était plus important.
Oui.
Je vais commencer par la fin. moi, au tout début, ce que je cherchais la liberté. La liberté en dedans de moi, la liberté dans mon corps, la liberté d'expression, mais dans le mouvement. Je pense que ce qui m'a amené à l'eau, c'est deux choses. J'ai mon père qui jouait beaucoup avec nous dans l'eau, qui était un nageur de longue distance. Individuel, si on veut, qui n'était pas avec un groupe, mais c'est ça. Puis, tous les jeux qu'il faisait avec nous dans l'eau, parce qu'on avait une piscine quand on était jeune. Puis, moi, ce que je voulais, c'est essayer de trouver à travers le mouvement puis à travers l'espace le lien entre le souffle et le geste. Pour laisser vivre la liberté qui s'installe à travers le souffle. Je parle pas de la liberté comme quand on est ado puis qu'on veut avoir le droit de puis dire tout ce qu'on pense, dire ce qu'on veut quand on veut, faire sortir quand on veut. Le sens de la liberté en cadeau, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est vraiment être en contact avec découvrir un être libre à l'intérieur. C'est ça. Ça vient de quelque part. Puis j'ai choisi le souffle pour aller à la rencontre des origines du mouvement. Et puis, d'essayer de trouver l'espace où on ne crée pas de contraintes ou de tensions ou de Fait que je cherchais l'espace libre, l'espace du mouvement libre qui est en harmonie avec le souffle. Puis c'est en vieillissant que j'ai vu qu'à un moment donné, les épreuves arrivant, les tensions s'installant, etc., etc. Mais ma recherche naïve à 28 ans, c'était vraiment d'aller à la rencontre de mes origines et de rechercher la source qui où il y a pas où il y aura pas de où ça va être fluide entre le souffle et le mouvement. Sentir que mon corps est libre, il est libre à chaque instant d'être juste ce qu'il est là, présentement, de le ressentir, puis d'essayer d'éliminer, d'essayer de m'apercevoir s'il y a des barrières. Puis, libre, ça ne veut pas dire toujours être libérant, ça n'a rien à voir, tu sais. La liberté, c'est beaucoup être en contact avec ce qui est là maintenant, puis juste comme s'ouvrir à ça, l'accepter, puis être en contact en essayant de ne pas créer de barrières. Des fois, les barrières arrivent malgré nous, mais ça, avec, en développant la conscience puis le témoin, on peut être en contact avec ces barrières-là, puis prendre le temps qu'il faut pour les enlever tout doucement. Mais toujours être libre dans l'instant de reconnaître qu'est-ce qui est juste là, maintenant, c'est ça aussi la liberté. C'est aussi accueillir et d'être plein de gratitude pour la vie avec son cheminement, avec le chemin qu'elle prend pour nous faire comprendre, pour nous faire évoluer, pour nous développer nos forces, nos vertus. C'est ça.
Merci. Merci. Effectivement, j'ai cette habitude de prendre une observation, de soumettre une observation, une question qui surgit intuitivement par rapport à un chemin de vie et d'amener différentes dimensions, de faire des liens avec une question finale que vous avez très, très, très bien répondu. Merci beaucoup. Carole Dion-Vichy, donc revenons un peu à cette actualisation, cet attrait pour la périnatalité. Vous êtes mère de deux enfants et c'est grâce à ces deux enfants. Vous en avez trois, les deux derniers enfants. Je m'excuse, merci beaucoup d'avoir corrigé. Les deux derniers accouchements dans le domaine de la périnatalité, de l'accouchement dans l'eau. Pouvez-vous nous en parler un peu? Quel a été votre apprentissage et comment cela se transfère dans l'enseignement à votre école Aquavie Mouvance?
Encore de très longues questions.
je reviens à cet énoncé.
Oui, à la périnatalité.
C'est ça.
Donc, dans ma première grossesse, j'avais 24 ans. Et puis, j'ai eu une grossesse avec épidurale à l'hôpital. Et puis, je me pensais toute bien correct et puis à la mode et qui suivait tout ce qu'il fallait faire pour sa grossesse et son petit bébé. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai vu le film d'Isabelle Brabant et puis Depuis que le monde est monde et là, je peux dire que j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis rendu compte que j'avais pas accouché mon enfant.
C'est correct, Carole Dion-Vichy. C'est c'est un processus qui est normal finalement. Il y a beaucoup, beaucoup
Oui.
de personnes qui, comme ça, prennent, font des prises de conscience. Et d'un autre côté, l'aspect culpabilité, vous avez réussi à passer, à prendre conscience de ça. Et on en est reconnaissant, on a de la gratitude. Donc, continuez votre
Je
histoire,
peux
c'est très
continuer.
passionnant.
Donc, c'est entendu que je me sentais tellement désolée. Je ne peux pas dire que je me sentais coupable, mais désolée. Et puis que j'ai vu que je manquais, que j'avais plein de peur, puis que je manquais de conscience aussi. Fait que j'ai commencé à faire des démarches. Le travail dans l'eau est arrivé sur le tas, parce que j'avais c'est au début de la trentaine dans ces années-là. Puis ça fait que j'ai eu le après ça, je suis retombée enceinte et j'ai eu les autres bébés à 37 ans puis à 40 ans. Donc la prochaine, c'était une fille, ensuite c'était un garçon. Et puis, c'est ça, moi, j'étais déjà très engagée dans le travail aquatique puis dans le travail de conscience corporelle. Puis là, c'était, je voulais absolument accoucher dans l'eau. Donc, ça s'est fait chez moi, dans mon bain, simplement. Et puis, avec une sage-femme. Et ça s'est bien passé. Et puis, comment je pourrais dire ça? Donc, au deuxième accouchement, il y a eu des trois tours de cordon autour du cou. C'est particulier. J'ai pu situer trois moments intenses émotivement, là, gros dans ma grossesse. Et puis, je ne sais pas si ça peut être un lien avec les tours de cordon. J'en ai aucune idée. Mais lors de l'accouchement, c'était facile pour la sage-femme et moi, à travers la respiration, de prendre le temps qu'il fallait pour enlever les tours de cordon et puis d'accoucher quand même tout en douceur dans mon bain. Ça s'est très bien passé. Donc, c'est mon expérience pour l'accouchement à la maison et puis je sais pas quoi dire d'autre. Le lien se fait plutôt dans le massage sous l'eau où je vais intégrer des mouvements que peut vivre le fœtus à l'intérieur et aussi lors du passage. Donc, il y a des techniques qui ont été mises au point et puis que le client peut vivre à travers le massage sous l'eau, là, qui est le massage aquavici.
D'accord.
Donc,
c'est ça. Le lien, vous m'excuserez, le lien qui est fait dans cette expérience, dans ces expériences, se traduit dans vos façons de faire, dans vos façons d'enseigner ces massages. On en parle un peu en désordre, dans le sens que vous avez trois formations. Hein, et donc, une de ces formations, ce sont les massages aquavie, des massages qui se font dans l'eau. Qu'y a-t-il de particulier qui vous différencie dans ces méthodes de massage, que soient des professeurs de yoga, des personnes qui prennent des formations aussi en massage, peuvent aller chercher dans les méthodes que vous enseignez?
Bon, quand je regarde ce qui existe sur la planète en termes de massage dans l'eau, je pourrais dire que ce qui est plus proéminent, c'est le Watsu, qui est du Shiatsu dans l'eau, qui a été innové par Erol Dole et qu'on retrouve un peu partout sur la planète et qui ont une organisation internationale aussi. Le Watsu, en général, il n'utilise pas de flotteur, puis il utilise les lignes de shiatsu, les méridiens, pour donner le massage. Ça se fait dans des bassins d'eau chaude, des spas, qui est à la température du corps. Puis, bon, ça, c'est cette partie-là. Par la suite, moi, j'ai développé ma sorte de massage. Je connaissais pas l'existence du massage dans l'eau, mais je l'ai développé à cause du bassin d'eau chaude dans lequel j'étais au centre Lucie Bruneau. Et puis aussi parce que on avait accès au masque, puis par la suite au flotteur. Donc, le massage s'est développé comme ça, mais dans un milieu privilégié. Comme pour le Watsu, c'était dans un milieu privilégié. Par la suite, il y a d'autres massages qui se sont développés qui sont plus reliés au massage sous l'eau, comme celui que je pratique moi-même. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses dans chacun des massages qui se ressemblent, mais qui vont avoir des orientations différentes. C'est la même chose comme j'ai expliqué auparavant. On est trois au Québec, et puis il y en a certainement d'autres dans le monde que je connais pas encore, mais on est trois au Québec qui avons développé des nages ondulatoires dans l'eau, donc mais avec des orientations différentes, des façons différentes d'enseigner. Donc, pour le massage, c'est la même chose. Donc, il y a eu Harold Dole. Moi, qui travaillais dans des bassins d'eau chaude à température du corps ici, avec flotteur ou sans flotteur. Et puis, par la suite, il est né le Wasantensen, qui se traduit par Wasantensen, c'est allemand. Ça vient d'un couple de danseurs qui ont développé comme une espèce de danse sous l'eau où il y a une personne qui prend soin de l'autre. Donc, moi, quelqu'un qui est debout, qui prend soin d'une autre personne, ça s'appelle encore le massage, mais que ça correspond beaucoup à ce que je fais en massage sous l'eau. Et j'ai découvert aussi par la suite un Mexicain, mon Dieu, j'oublie son nom, avec le Jansu. Mon Dieu, j'espère que je vais me souvenir de son nom. Donc, ce monsieur est mort, et puis la personne qui le succède, qui a suivi ses enseignements pendant une dizaine d'années, qui donne aussi la formation, s'appelle. Mon Dieu.
Ça va nous
Dion,
revenir.
ça va me revenir. C'est un monsieur Dion, ça va me revenir, qui vit maintenant au Mexique. Donc, il y a sa femme aussi, son ex-femme, qui a aussi développé de son côté. Puis, ils ont donné naissance c'est-à-dire, ils ont formé des gens qui ont donné naissance à d'autres personnes. Et le festival que je suis allée dernièrement au Mexique, le festival d'aquadance, ils font aussi le aquara. Donc, le aquara, avec ce que j'ai pu voir, c'est une forme de massage sous l'eau, un peu, où il y a plusieurs mouvements apparentés à mon massage sous l'eau, qui est le massage aquavici, qui porte mon nom sanskrit. Donc, c'est les sortes de massages qu'on retrouve. Le dernier massage aquara, malheureusement, je me souviens pas aussi, là, j'ai pas le nom de la personne sous mes yeux.
Susana Rodriguez, peut-être?
Non, non, non,
Non.
non, 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 c'est un jeune homme qui est autour de 35-36 ans, que ça fait 6 ans qui développe cet aspect-là. Donc, je suis très désolée de ne pas me souvenir de son nom là, tout de suite comme ça. C'est toutes ces formes de massage-là que je connais présentement. Peut-être qu'il en existe ailleurs. Je sais qu'il y a une vague, je viens d'apprendre qu'il y avait une vague d'activités aquatiques qui se font dans les eaux chaudes de la mer ou de certains lacs dans les pays du Sud. Bon, ceux qu'on m'a dit qui existaient, c'est à Bali, en Grèce, en Espagne, sur le continent ici, au Mexique, au Brésil, en Guadeloupe. Et c'est ce que j'ai entendu parler. J'ai fait un cours de Jiangsu en Guadeloupe l'an dernier. Puis j'avais déjà fait aussi un cours de Watsu avec Carol Dole il y a quelques années. Donc, c'est toutes des approches qui se ressemblent beaucoup. Ils ont chacun ses variantes et puis ont des orientations différentes. Fait que c'est ça, c'est beau ce mouvement-là. Moi, j'ai pas développé beaucoup mon massage aquavici sous l'eau parce que toutes les gens préfèrent avoir des flotteurs puis être vraiment dans une relaxation qui leur demande pas d'adaptation. Dans le massage sous l'eau, ça demande vraiment une adaptation et avec la respiration, les deux corps ensemble de celui qui donne, de celui qui reçoit. Et puis, parce qu'on est en mouvement, les massages sous l'eau peuvent se faire dans une eau plus fraîche ou dans une température, dans une eau plus fraîche comme dans une eau de la mer dans les pays du Sud, ça se fait bien. Et puis dans des lacs chauds aussi. C'est la partie, c'est ce qui fait que c'est plus populaire le massage sous l'eau dans les pays du Sud, puis dans les endroits où les mers sont calmes. Ensuite de ça, l'autre particularité, il y a l'eau, on a dit, puis tout le monde utilise le pinceau. Ça fait que moi, j'ai utilisé le masque, mais souvent, j'utilise le pince-nez aussi. Parce que ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle préfère. Donc, on utilise tout cet outil-là. Et puis, le massage dans l'eau est venu la danse dans l'eau est une continuité du massage sous l'eau. Parce qu'à ce moment-là, ça commence à être la danse dans l'eau quand le masseau devient lui-même danseur et que la personne qui reçoit devient elle aussi proactive. Fait qu'à ce moment-là, les deux sont actifs dans le mouvement à tour de rôle, ils se créent une alchimie voilà, c'est ça, la danse dans l'eau est partie, la danse sous l'eau.
D'accord.
Donc, c'est ça. Puis moi, ben ici, puisque ça existe depuis tellement d'années, ben j'ai développé plusieurs aspects, plusieurs catégories de danse sous l'eau. C'est ce que j'ai fait finalement à travers les années, c'est de faire de la synthèse, de regrouper des mouvements, de les classer, de les placer selon différentes parties du corps, selon les en utilisant toujours toutes les directions. Donc nord, sud, est, ouest, ciel, terre, donc devant, derrière, la latéralité, gauche, droite, et puis tout ce qui est élongation, rétraction, et puis tout ce qui est torsion. Donc c'est toujours ça, toujours relié à la respiration. Et puis, c'est ça, j'ai décortiqué, organisé, orienté, synthétisé, et ça a donné naissance au travail qui existe maintenant.
Et voilà, et voilà. Et si, avant de passer à la description des autres formations que vous offrez, si on résumait, si j'avais comme ça vous demander en moins d'une minute, ou en fait de façon très, très condensée, pour les personnes qui ne connaissent pas cette formation de massage aquavit, en quoi consiste ces cours?
Pour le massage et la formation, ben, on fera pas les deux formations de suite. On va laisser le massage sous l'eau en dernier. Si la personne a le choix de faire sa formation ou pas. On va surtout donner le massage avec flotteur, que j'appelle le massage aquavit, plus particulièrement parce que c'est celui-là qui est pratiqué à 95% ici au Québec. Ça fait que les gens vont apprendre des mobilités plus vastes pour aller de plus en plus vers des mobilités très, très spécifiques. Et puis, tout ça va prendre à peu près 9 mois aussi. Et puis, ils vont avoir des pratiques à faire. Donc, il y a 4 grands blocs de travail. D'abord, à la base, il y a un travail d'aquamouvance pour que la personne elle-même qui va masser va avoir déjà fait elle-même un travail sur elle à partir de l'aquamouvance, c'est-à-dire qu'elle va comprendre tout ce principe-là d'ondulation à partir de son corps personnel. Et par la suite, il va avoir 3 volets reliés au massage. Donc, une première étape pour donner toutes les fondations puis les mouvements sur lesquels on risque rien. On risque pas qu'il y ait de choses mal faites ou qui puissent déranger.
Être une entrave.
Oui. Fait que des choses qui sont comme plus faciles pour que, puis qui sont plus des bases sur lesquelles le massothérapeute va asseoir sa pratique. Puis la deuxième formation, ça va être tout le travail spécifique qu'on peut faire dans le corps, c'est-à-dire tous les petits points. Partout, on va passer à travers le corps au complet. Puis la façon dont on passe à travers le corps, c'est à travers des petits mouvements de vagues. Tandis que la première partie, c'était des grands mouvements de vagues, des grandes manœuvres plus. Donc ça, ça va être la deuxième partie. C'est vraiment un bourrage de crâne. C'est beaucoup, beaucoup d'informations. Et la troisième partie va servir à unifier tout ça, à créer des liens d'un mouvement à l'autre, à aller plus en profondeur, puis à comprendre à quel moment que aussi laisser de l'espace à une improvisation à certains moments donnés parce que le corps appelle, parce que les mains deviennent, parce que dans la conscience et dans la qualité méditative du masseur, les choses se passent pour aller plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut exploiter, explorer au niveau d'aller plus profond? Quand je dis plus profond, ça peut être plus profond physiquement, mais ça peut être plus profond subtilement. Donc, on va, dans la troisième étape, on va aborder ces dimensions-là, plus profondes, dans le physique et dans le subtil. Puis faire les liens, faire que tout soit bien lié comme une danse, avec des moments d'arrêt, que ce soit quelque chose d'organique et de cohérent et harmonieux avec ce que la
D'accord.
personne a besoin de vivre. Donc, à travers ça, ben, il y a des pratiques, puis il y a des supervisions.
Et voilà. Merci.
Merci.
Merci. C'était pour la formation, les cours massage aquavit.
Oui.
Carole Dion Vichy de l'école Aquavie Mouvance, on se met dans la situation où justement les personnes qui aiment l'eau, qui veulent se retrouver dans de la non-compétition, la formation. Parlez-nous un peu de cette formation BBO que vous offrez.
OK. Donc, la formation pour les bébés d'eau, ça se passe en 3 blocs, à tout un, deux, trois, en 4 blocs. Donc, la première étape, les gens vont, premièrement, à qui ça s'adresse. Il y en a beaucoup des mamans qui viennent travailler dans l'eau avec leur premier bébé qui vont décider, dans nos profs, là, qui vont décider à un moment donné de faire leur formation parce qu'ils ont prendre soin des bébés des autres qui sont extrêmement excités ou stimulés par cette approche-là, qui est une approche de développement moteur de l'enfant en milieu aquatique. Donc, toutes les étapes de l'enfance que le bébé va vivre, on les adapte dans l'eau aussi. Donc, le bébé va développer son potentiel aquatique au fil de ce qu'il va développer son activité motrice en dehors de l'eau. Et le travail aquatique va venir aussi soutenir le travail sur terre, là, en dehors de l'eau. Donc, la première étape que les professeurs vont faire, c'est qu'ils vont apprendre de 1 mois à 18 mois, donc jusqu'à 1 an et demi, le développement moteur de l'enfant en dehors de l'eau. Ça résume à quoi? Hein? On va aller dans les détails là-dedans pour faire le lien avec tous les exercices qu'on va apprendre à faire aux enfants dans l'eau. La méthode des bébés d'eau est basée sur un travail de réorganisation neurofonctionnelle aussi, que c'est une formation que j'ai prise. Et puis, c'est ça, fait que tout le côté corporel, le côté aquatique, va être avec le bébé, la maman et le bébé, va être orienté sur toutes les différentes étapes de sa motricité, en partant de se tenir assis, de tenir son cou, c'est-à-dire de se retourner, de se tenir assis, ramper, marcher à quatre pattes, être un petit bonhomme, à genoux, debout, marcher, tout ça, il va le faire, mais symboliquement dans l'eau. Ça va développer sa musculature, des bras, du ventre, du dos, du cou, pour tout renforcer tout ce qu'il a besoin à travers ces étapes de développement moteur. Puis après ça, ben vient l'étape du parler. Hein, et puis à 18 mois, ben la pédagogie va changer. Puis on va aller de 18 mois à 3 ans, qui va aller jusqu'à l'étape où l'enfant pense, choisit, où le soi prend forme, commence à prendre forme de plus en plus. Donc, il va avoir toute cette démarche-là. La forme pédagogique, comme j'ai dit, elle va changer parce qu'il va avoir les terribles 2 ans, comme on nomme, là, où l'enfant pouvait être très bon à 2 ans, puis du jour au lendemain, il ne veut plus rien faire, il décide que non. Donc, comment on suit ces processus-là? Ça fait que tout l'enseignement qu'on fait au bébé va aussi se soucier de qu'est-ce qui se passe chez les parents. Aussi dans sa relation avec l'enfant, dans les mots qui sont utilisés, et puis dans les attitudes corporelles, dans les non-dits, faire prendre conscience aux parents de ces attitudes gestuelles, comment ils peuvent envoyer des messages qui ne sont pas toujours facilitants. Donc, on est conscient de ça, donc on les explique à tous les parents. Comme ça, le parent peut être plus alerte et observer ses propres réactions, hein, qui sont tout à fait normales, puis que pour changer des petites choses, pour aider davantage l'enfant à exploiter, à développer tout son potentiel moteur, mais aussi de l'expression du. Donc, on voit encore ici le même objectif que j'ai eu au tout début, dans la vingtaine, au début de ma recherche. On la retrouve encore ici avec les tout petits bébés, dans leur développement moteur, puis dans le développement de leur joie, de leur personnalité, de leur force, de leur pouvoir, de toutes ces petites choses-là, de leur créativité, de toutes ces choses-là qui développent en eux, puis toujours en avec le parent aussi. C'est vraiment un cours aussi pour le parent. Donc, Fait que c'est nos objectifs. Il va y avoir ensuite le troisième cours qui va être relié aux enfants qui prennent leur respiration pour la première fois, pour qui vont apprendre à être autonomes. Puis la dernière étape, c'est pour les enfants qui sont capables de faire une longueur de piscine, certainement 20 mètres, toute seule, donc sans pression dans la vitesse d'avancement, bien entendu, pas toujours avec un style particulier, mais toujours en contrôle de sa respiration, et puis avoir une capacité à avancer naturelle. Donc, c'est ça, ça va être la dernière étape qu'on va faire. Et puis, avec ces enfants-là, ben, on va faire du théâtre. On va faire du théâtre d'eau. on va faire toutes sortes de jeux abracadabrants parce que c'est... Puis, ils vont aussi apprendre à se déplacer, mais pas dans un rapport de performance ou orienté sur la performance ou l'endurance ou l'entraînement physique. C'est à travers le jeu que l'enfant va nager d'un point à un autre, qui va apprendre à être efficace. Mais ça va être à travers une histoire que toutes les habiletés potentielles requises pour bien apprendre à nager plus tard. Plus tard, c'est dans pas long, hein, c'est 6 ans, là, 7 ans. 6 ans, il sait déjà, il va savoir déjà nager, mais sauf qu'on n'aura pas appris un style spécifique technique, de façon technique. Ça va être, il va savoir se déplacer à la façon d'un crawl ou à la façon d'une brasse, je dis bien à la façon de. Le reste, quand il va approcher du 7 ans, qu'il va avoir ses nouvelles dents. À ce moment-là, la natation traditionnelle et puis l'efficacité puis la vitesse va pouvoir venir en ligne de compte parce qu'elle aussi correspond aussi au développement moteur de cet âge-là. Donc, je reviens à mes tout débuts en éducation physique. Les objectifs moteurs qu'on avait dans nos cours, moi en tant que professeur d'éducation physique au primaire, ben c'est tout je dirais c'est à partir de 6-7 ans que là les choses vont être beaucoup plus fonctionnelles, plus traditionnelles aussi, c'est parce qu'il est rendu à apprendre des choses de façon beaucoup plus technique, puis il y en a soif aussi à cet âge-là. Donc ça, puis si on veut juste glisser un petit mot pour si j'avais des cours à donner à des ados, ben c'est certain que je leur ferais l'aquadance et des jeux de massage sous l'eau. Ce serait vers ça que serait orienté mon enseignement pour le secondaire. Et puis l'aqua yoga commencerait peut-être plus quand on rentre au cégep.
D'accord.
Sans oublier bien entendu la danse et le massage, mais si j'avais à projeter des programmes pour toute la société, ben ce serait ça.
D'accord.
Je voulais mentionner aussi que les mamans, avant, quand ils sont enceintes, on offre des ateliers, du massage, entre autres du massage dans l'eau, avec le papa aussi, où le papa peut apprendre à communiquer avec le bébé dans l'eau, puis à jouer aussi, à manipuler le ventre tout en douceur pour connecter la dimension jeu avec ses enfants qui bougent à l'intérieur. C'est ça. Et puis, l'autre clientèle, j'étais heureuse l'autre jour de voir une personne handicapée en chaise roulante qui savait nager auparavant, mais qui savait plus comment se servir de son corps pour nager. Elle voulait absolument utiliser le mouvement dans l'eau, mais elle savait plus quoi faire. Donc, c'est à partir de l'approche et de la technique de l'aquamouvance, encore là, de comment utiliser la pensée, l'intention, les yeux, la direction, le cou, l'élongation, la présence jusque dans le bout des doigts, puis pour les gens qui sont pas handicapés, jusqu'au bout de leurs orteils, là, mais des fois, c'est juste le tronc qui peut bouger. Mais comment cette personne-là, on a organisé une nage avec ses limites, je devrais dire, j'ai organisé une nage avec ses limites, à être capable de se déplacer, de venir respirer, d'être autonome, de faire des longueurs à son rythme et puis en toute sécurité. Fait que ça, c'est un de mes bels exploits. Je suis plus la seule maintenant à faire ces choses-là, hein, parce qu'en enseignant la méthode, les gens peuvent vraiment utiliser tous les outils qu'ils ont pour s'adapter à toute situation. Et puis même une danseuse handicapée, une danseuse en chaise roulante sur terre, là, qui est venue me voir pour voir qu'est-ce qui était possible de faire dans l'eau. Puis à un moment donné, elle a appris à respirer, justement, à aller chercher sa respiration. C'était quelqu'un qui était très puissant au niveau du cou, incroyable. J'étais très surprise. Et puis, comment avec l'exercice qu'on appelle le coup de tortue, l'exercice de respiration, comment elle est arrivée à danser dans l'eau, puis à bouger avec très peu d'outils. Je te dirais juste le bout de ses mains a traversé la piscine. Là, elle s'est pas rendu compte qu'elle avait traversé la piscine. Et puis, comment elle peut bouger dans l'eau comme ça en utilisant ses yeux. Les yeux, c'est tellement magique, les yeux. Mon Dieu. Donc, c'est les yeux qui rentrent en lien avec tout ce qui défile dans notre corps, tous les liens avec les ligaments, les muscles, les os, et jusqu'aux organes, c'est incroyable. Fait que j'invite les gens vraiment à découvrir tout le potentiel de ce qu'on peut faire. Puis j'ai regardé aux Olympiques il y a quelques années, ils n'utilisaient pas encore l'ondulation. Puis à un moment donné, ils ont commencé à utiliser une espèce de balancement entre le bassin et les épaules. Puis ben maintenant, quand on les regarde nager, tout le monde ondule, hein? Ils font leur nage traditionnelle en ondulant. Et les records, ben,
Effectivement,
augmentent toujours.
oui,
Fait
il y a
que,
une évolution, hein, une évolution de l'être humain,
oui,
j'imagine.
oui. Oui.
Oui. Carole Dion-Vichy de l'école Aquavie Mouvance, si on se mettait dans la situation pour les gens qui aiment l'eau, la non-compétition, et que nous résumons le cours, la formation que vous offrez de bébé d'eau, qu'en est-il?
Répète ta question parce que c'est comme si
Oui.
le début.
Oui, alors pour résumer, pour les personnes qui voudraient prendre cette formation de bébé d'eau, qu'en est-il une description à quoi s'attendre?
Donc, c'est attendu que nous, moi en tant qu'école, puis les autres écoles qui ont été formées à partir de mon enseignement, on a tous besoin de relève, hein? On a besoin de professeurs. Nos écoles reçoivent vraiment de 150 à 300 élèves par session. Et puis, on a besoin de personnel. Et puis, pourquoi que les gens pourraient faire ça parce que parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Parce que c'est des gens adorent les bébés, qui veulent travailler avec les bébés et les mamans. Parce que moi, j'adore travailler avec les mamans. C'est vraiment autant qu'avec les bébés. Donc, quand on sort d'un cours qu'on vient de donner à des bébés, on est tellement, on est sur l'adrénaline, il faut du bon Dieu, on est dans la joie, on est excité avec la vie, tout ce que ça nous apporte de travailler avec les bébés, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement extraordinaire. Puis, pourquoi que les gens viennent? Ben je te dirais, pour mieux comprendre le développement moteur de l'enfant, toutes, aller plus profondément dans les particularités de toutes les étapes du jeune bébé. Je dirais, je tournerais ta question différemment. Pourquoi un prof de natation traditionnelle qui enseigne au bébé voudrait se spécialiser avec notre forme d'enseignement? Puis ce que j'ai dit en dernier, je le répète, c'est vraiment pour mieux connaître le bébé, pour mieux connaître la maman, les parents. Qu'est-ce qu'ils vivent, les parents? Quand tu es prof de natation à 18 ans, là, tu sais pas grand-chose de ce que c'est être un parent. Puis tu sais pas non plus qu'est-ce que c'est un petit bébé à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, comme ça. Jusqu'à 18 mois, là, il y a tellement à dire, tellement à savoir, tellement de subtilité. Puis par la suite aussi quand même, parce que on apporte un plus, puis on fait des différences vraiment avec la natation traditionnelle qui existe déjà. Donc, les parents, ils veulent pas manquer leur cours. C'est quelque chose de très précieux, un moment très précieux pour eux. Puis c'est une approche intelligente. C'est fun de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, puis à quoi ça correspond à tel âge, puis que si le bébé il veut plus être sur le dos à 6 mois, c'est pas la même chose qu'à 9 mois, qu'à 18 mois, qu'à 2 ans, c'est pas la même raison. Si un bébé se tourne tout le temps, aussi, ça a des raisons particulières selon l'âge. Si le bébé se tient plus debout quand il est dans l'eau, quand on sait qu'il vient juste d'apprendre à marcher, c'est pas la même chose qu'un bébé qui se tient debout à 1 mois parce qu'il est trop tonifié, trop en tonus à cet âge-là, il y a des raisons à toutes choses pour chacune des âges. Puis on n'est pas là pour apprendre à l'enfant à marcher plus vite, mais vraiment à vivre chacune de ces étapes de développement moteur qui dure à peu près 1 mois et demi chaque, jusqu'à 18 mois. Là. Après ça, ça change un peu. Tout ce développement moteur-là, c'est extrêmement précieux de vivre cette étape-là qui lui correspond maintenant. Tant c'est temps de se tourner, on va faire des choses qui sont reliées à ça parce que l'enfant est en train d'apprendre ça. Quand l'enfant est rendu à s'asseoir, on va travailler sur le développement des muscles du ventre et du dos. Puis, tu sais, tout le cou qui... tout veut se plier en deux. Tout son système, c'est déjà vers où il s'en va. C'est à la posture debout.
Wow.
Puis pour marcher, puis pour parler, puis pour être une personne complète en elle-même, puis développer le soi. On dit que le soi, il se développe jusqu'au début de la vingtaine. Tu sais, puis ça continue toujours, là, mais les grandes bases, c'est en cheminement tout le temps. On est un adulte, puis qui va s'accomplir dans la société. Fait que pour moi, travailler avec les bébés dans l'eau, c'est préparer notre société à être meilleure.
Préparer notre société à être meilleure. Carole Dion-Vichy de l'école Aquavie Mouvance, c'est vraiment votre mission, votre raison d'être, votre passion, votre vocation, parce que vous avez passé beaucoup d'années à parfaire votre art, c'est maintenant une science, c'est maintenant des cours, des professeurs qui enseignent ce que vous avez conçu, ce que vous avez mis sur pied. C'est tout le temps qui nous reste, Madame Carole. Le temps a passé si rapidement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission tout à fait particulière. J'en reviens à ce souhait que toutes les écoles de yoga, tous les professionnels, les pédagogues qui travaillent avec les êtres humains qui veulent leur enseigner à apprendre à se découvrir eux-mêmes, à se dépasser, qui aiment l'eau, d'une façon non compétitive. De mon avis, Carole Dion-Vichy, de l'école Aqua Vie Mouvance, vous m'avez convaincu que toutes les écoles de yoga, de tai chi, de qigong, de tous les professeurs qui enseignent la connaissance d'eux-mêmes doivent savoir ce qu'est la morphologie de l'eau, puisque c'est un travail sérieux. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et je vous laisse le mot de la fin, un souhait pour l'humanité, pour la société, pour les personnes qui nous écoutent, le futur pour vous. Le dernier mot est à vous. Merci beaucoup, Carole Dion-Vichy, d'avoir accepté notre invitation à Yoga Partout International. Et je vous souhaite une bonne route. Je vous souhaite tout le bonheur. Merci, merci, merci. Plein de gratitude, de joie et de bonheur pour vous. Le dernier mot est à vous.
OK, ben moi aussi, je veux dire merci à toutes les amies puis les professeurs qui œuvrent au Québec, en France, à Hawaï, dans l'île de la Dominique, dans l'île de la Désirade, mon Dieu, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Je veux remercier toutes les personnes qui continuent à œuvrer dans notre sens et je veux dire toucher avec encore plus d'ouverture encore, puis partager, surtout partager ces connaissances-là, cette qualité-là, d'être avec l'eau puis d'apprendre à devenir des amants de l'eau.